ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est le genre de phrase qui nous fait tous un peu trembler, surtout lorsqu'on sait que les pharisiens, au temps de Jésus, n'étaient pas du tout réputés pour être spécialement relâchés, laxistes ou libéraux. Au contraire, c'était ceux qui voulaient appliquer très sérieusement et même rigoureusement la loi de Moïse. Ces gens-là étaient très stricts, ils ne badinaient pas avec la loi ou la morale, et c'est précisément d'eux que Jésus déclare « Si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Visiblement, Jésus veut frapper les esprits. Pour cela, il prend ceux qui passent pour des modèles de rigueur, les scribes, ou bien des exemples parfaits d'observance de la loi, les pharisiens, et il nous annonce qu'il faut aller bien au-delà. Il nous apporte une loi nouvelle, je vous apporte un commandement nouveau. Et il le souligne à gros traits. Ces gros traits, on les voit du fait que 6 fois de suite, dans son sermon sur la montagne, Jésus cite d'abord une sentence de la loi ancienne, la loi de Moïse, en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, observez telle loi. » Par exemple, comme c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, « Tu ne tueras pas. » Mais après 6 fois de suite, il ajoute « Et moi, je vous dis, allez plus loin, faites davantage. » Très visiblement, notre Seigneur se présente comme un nouveau Moïse, un nouveau législateur. Mais en même temps, et c'est aussi dans saint Matthieu, c'est 2 versets avant le début de l'évangile d'aujourd'hui, en même temps, notre Seigneur montre bien que cette loi nouvelle n'est pas une révolution, ça n'est pas un renversement de la loi de Moïse. Non, c'est un perfectionnement. Ne pensez pas que je sois venu abroger la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il faut tout de suite remarquer, avant d'expliquer un peu ces rapports entre la loi ancienne et la loi nouvelle, la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ, que ce verbe « accomplir » a ici 2 sens complémentaires. Jésus est venu accomplir la loi juive de 2 manières. D'abord, il est venu l'accomplir en ce sens qu'il est venu lui-même l'observer et la pratiquer de façon absolument parfaite. Vous savez sans doute que la loi de Moïse rassemblait 3 sortes de préceptes, 3 sortes de règlements. Il y avait d'abord les grandes règles morales qu'on a encore aujourd'hui. Exemple, tu ne tueras pas. Et c'est ce qu'on appelle les préceptes moraux. Il y avait d'autre part des indications sur le culte divin. Par exemple, la façon de célébrer les sacrifices au temple. C'était les préceptes du culte ou préceptes cérémoniels. Enfin, troisièmement, il y avait une sorte de code pénal qui réglementait le détail de la société et qui fixait en particulier comment on devait juger, comment on devait réparer les torts faits à quelqu'un. Et c'était ce qu'on appelait les préceptes judiciaires. Or, ces 3 sortes de préceptes, préceptes moraux, préceptes cérémoniels, préceptes judiciaires, ont été respectés par Jésus durant sa vie. On voit par exemple Jésus être circoncis 8 jours après sa naissance, être racheté par 2 colombes le 40e jour. On le voit monter régulièrement au temple pour prier et pour les fêtes. Mais surtout, surtout, explique saint Thomas, ils ont été accomplis par Jésus dans sa passion et dans sa mort. D'ailleurs, juste avant de mourir, avant de rendre son âme, Jésus déclare « consummatum est ». Tout est consommé. Tout, c'est quoi tout? Ça désigne la loi et les prophètes. Jésus a accompli ce qui avait été annoncé par les prophètes, mais aussi il a accompli la loi juive et dans ses trois sortes de préceptes. D'abord, il a accompli à la perfection les préceptes moraux par cet acte de charité, d'obéissance parfaite. Il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et puis, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, comme dit saint Paul, « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». Et en même temps, Jésus montrait son amour pour son Père. D'ailleurs, juste avant d'aller au Jardin des Oliviers, il déclare à ses disciples « Afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis comme mon Père me l'a ordonné, levez-vous, sortons d'ici ». Acte d'amour et d'obéissance parfait. Notre Seigneur a accompli à la perfection les préceptes moraux. Il a également accompli les préceptes cérémoniels. Ceci était centré sur l'offrande du sacrifice, des sacrifices au temple. Or, Jésus a offert un sacrifice parfait, un sacrifice éminent, en s'offrant lui-même, étant en même temps le grand prêtre et la victime parfaite. Enfin, troisièmement, les préceptes judiciaires, ou bien le code pénal, sont accomplis par cette grande peine, cette satisfaction que le Christ a voulu accomplir pour payer notre dette, payer toutes nos fautes. Et comme chante le psalmiste, « Quae non rapuit, tunc exsolvit », ce qu'il n'avait pas pris, il l'a rendu. Il a voulu qu'on le cloue à l'arbre de la croix, à cause du fruit que le premier Adam avait volé à l'arbre la connaissance du bien et du mal. Jésus a donc accompli parfaitement la loi ancienne, la loi de Moïse. Il l'a pratiquée au niveau suprême. Et tout de suite, on voit qu'il y a là une certaine ambiguïté. Parce qu'on se rend compte que pour accomplir la loi à la perfection, la loi ancienne, Jésus a dû la dépasser. Bien sûr, cette loi indiquait une direction, elle avait un but qui était l'union à Dieu, mais tout en orientant dans ce sens-là, elle-même n'allait pas assez loin. Elle tournait l'homme vers la perfection, en ça elle était bonne, mais elle restait en elle-même imparfaite. Ce qui fait que si on voulait l'observer à la perfection, si on voulait atteindre le but qu'elle désignait, qu'elle visait, on était obligé de la dépasser. Et on touche ici le second sens dans lequel Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu abroger la loi ni les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». Accomplir, c'est-à-dire mener à sa perfection, car la loi de Moïse elle-même, la loi ancienne, avait besoin d'être perfectionnée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on touche ici à un point très sensible. Un point qui était déjà sensible il y a 2000 ans, particulièrement discuté entre saint Paul et les Juifs, mais très sensible aujourd'hui encore, dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux entre Juifs et chrétiens, puisque les Juifs déclarent continuellement « Notre loi vient de Dieu ». Et vous, chrétiens, vous le reconnaissez vous-même, vous admettez qu'elle vient de Dieu, donc elle est bonne. Donc, vous ne pouvez pas nous forcer à la changer. Nous pouvons la garder, car les dons de Dieu sont sans repentance. C'était déjà l'argument il y a 2000 ans, et c'est encore l'argument aujourd'hui. La différence, c'est qu'il y a 2000 ans, saint Paul savait y répondre. Tandis qu'aujourd'hui, bon nombre de prêtres, d'évêques, et même parfois le pape, semblent incapables de répéter ce que saint Paul avait pourtant très clairement expliqué. Saint Paul, qui était d'origine juive et même pharisien, donc très attaché à la loi juive, éclairé par Dieu, a compris. Il a compris comment, dans sa passion, Jésus a parfaitement observé la loi et il l'a observé en atteignant le but, l'union à Dieu. Et, développe saint Paul dans son épître aux Hébreux, si Jésus a fait tout ça, c'est qu'il était prêtre. C'est vraiment le thème de cette épître aux Hébreux. Or, Jésus n'était pas prêtre selon la loi juive. Il n'appartenait pas à la tribu de Lévi, dans laquelle on recrutait les prêtres juifs. Il n'était pas prêtre selon l'ordre d'Aaron. Non, dit saint Paul, il était prêtre d'un ordre supérieur, prophétisé par David, qui disait en s'adressant au Messie « Tu es sacerdoce secundum ordinem Melchisedec ». Tu es prêtre, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec, un autre type de prêtre. Et saint Paul explique que Jésus est prêtre de façon beaucoup plus parfaite que tous les prêtres juifs. C'est un prêtre éternel, un prêtre permanent. Un prêtre qui n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés, à la différence des prêtres juifs, qui étaient obligés d'abord de faire une offrande pour se purifier eux-mêmes de leurs péchés, avant de pouvoir offrir le sacrifice pour les péchés du peuple. Non, Jésus est un prêtre parfait, qui offre un sacrifice parfait, non pas le sang des boucs et des brebis, mais un sacrifice qui réellement va unir l'homme à la divinité. Et ensuite, en une petite phrase qui résume toute la question, saint Paul déclare « S'il y a eu un changement de sacerdoce, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi ». Et c'est évident. Pourquoi ? Parce que tous ces préceptes cérémoniels de la loi juive venant détailler la façon dont il fallait observer tel ou tel sacrifice se rapportaient au sacerdoce juif, au sacerdoce d'Aaron. Si on change de type de sacerdoce, si on inaugure un nouveau type de sacerdoce, il est évident que tous ces préceptes aussi doivent changer. Donc la loi change. Et notez que lorsque saint Paul écrivait cette phrase, le temple de Jérusalem était encore debout. Les prêtres juifs continuaient à y offrir des sacrifices. Aujourd'hui, si on a discuté avec des juifs, on peut leur dire « De toute manière, la question est réglée. Votre sacerdoce n'existe plus. Ce n'est pas nous qui l'avons supprimé, il n'y en a plus. » Donc s'il n'y a plus ce sacerdoce juif, tous les préceptes cérémoniels de ce qu'il devait accomplir, ça n'existe plus, cette loi n'existe plus. Alors ici, on pourrait poser une objection en disant « Mais dans ce cas-là, pourquoi Jésus dit-il « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement « Oui, je suis venu abolir votre loi pour la remplacer par une loi supérieure ?» Saint Thomas répond en expliquant que d'un certain point de vue, il y a bien deux lois, la loi ancienne, celle de Moïse, et la loi nouvelle, celle de l'Évangile. Mais d'un autre point de vue, elles ne font qu'une, parce que la première est ordonnée à la seconde. Et il prend la comparaison des lois politiques. Imaginons aujourd'hui deux pays très différents. Par exemple, un pays chrétien voisin d'un pays communiste. Évidemment, les lois de ces deux pays seront très différentes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un but différent. D'un côté, ça mènera vers le ciel, de l'autre vers l'enfer. Les lois sont essentiellement différentes parce que la fin, le but, est différent. Maintenant, prenons non plus la loi de deux pays, mais à l'intérieur d'un même pays, comparons la loi générale et la façon dont on éduque les enfants. Par exemple, le règlement d'un collège, ou bien les permissions et les interdictions d'un père de famille à ses enfants. Il est évident que dans le pays, l'enfant de 3 ans n'est pas mené de la même manière qu'un adulte. Il n'a pas les mêmes droits. D'un autre côté, on n'attend pas de lui non plus le même comportement. Au tout début, on ne fait même pas appel à sa raison, parce qu'il n'a pas l'âge de raison. On le mène uniquement de l'extérieur, parfois même avec des châtiments corporels. Mais le but n'est pas qu'il reste dans cet état et qu'il continue toute sa vie à agir par crainte d'être privé de dessert ou de recevoir une fessée. Non, le but est bien d'en faire un adulte qui aimera son pays et qui en respectera librement la loi. Il y a donc continuité entre la loi qu'on lui donne dès qu'il a 3 ans et celle qu'il observera à 30 ans, même si de fait, cette loi est très différente. Eh bien, la différence entre la loi ancienne et la loi nouvelle est de cette nature. La première loi est moins parfaite, plus extérieure, usant davantage de la crainte. La deuxième est parfaite, essentiellement intérieure et centrée sur l'amour. Mais attention, ça ne signifie pas que tous les chrétiens, parce qu'ils sont dans la loi nouvelle, ont nécessairement atteint ce niveau. De même que dans l'Ancien Testament, parmi les patriarches, il y avait des saints qui, quoi qu'étant dans l'Ancienne Alliance, avaient réellement l'amour de Dieu et le pratiquaient de façon supérieure à nous. Eh bien, de même, dans le Nouveau Testament, beaucoup de chrétiens, et certainement nous en partie, ont tendance toujours à vouloir se raccrocher uniquement à une loi extérieure, un règlement. Je fais ça, j'observe le règlement, il y a là une barrière, je ne passe pas la barrière et je suis tranquille. Et notre Seigneur dit non, ça n'est pas ça. C'est le cœur qu'il faut changer et continuellement il faut réussir à se convertir, tourner son cœur vers le bon Dieu, apprendre à l'aimer, aimer son prochain. Et c'est pour ça qu'il nous lance cet avertissement. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut apprendre à aimer Dieu en toute chose et par-dessus toute chose, comme le dit l'oraison d'aujourd'hui. Donc en conclusion, en ce mois du Sacré-Cœur, d'abord remercions Jésus de nous avoir apporté cette loi nouvelle qui est plus douce que la loi ancienne, beaucoup plus facile à observer, à condition justement qu'on accepte vraiment de se convertir, qu'on accepte d'aimer le bon Dieu. Et demandons-lui à rentrer dans cette logique, qui n'est plus la logique de la crainte, qui est la logique de l'amour de Dieu. Demandons-lui d'accepter de nous convertir petit à petit. Et bien sûr, demandons-lui ça par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.